Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyens. Mieux connaître vos droits ou bien les défendre, mieux connaître vos devoirs ou bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
En République démocratique du Congo, l'UNFIA ou le Fonds des Nations Unies pour la population met à la disposition des communautés affectées des kits de santé de la reproduction en cas de crise humanitaire. Ces kits permettent de répondre rapidement aux besoins sanitaires qui surgissent au sein des populations affectées suite à une crise humanitaire. Alors, que faut-il comprendre par kit d'urgence? Quels sont les différents kits conçus par l'UNFIA pour secourir les communautés en situation de crise humanitaire? On en parle aujourd'hui avec Dr Senen Unton, il est le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population en République démocratique du Congo. Dr Senen, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par kit de santé de la reproduction?
Permettez-moi d'abord de parler du contexte. Pourquoi on en est arrivé à parler des kits de santé de la reproduction? Vous savez, lorsqu'il y a des situations humanitaires, que ce soit des conflits armés, que ce soit des inondations, de la sécheresse, des tremblements de terre, bref, les femmes se retrouvent en situation de vulnérabilité et en situation de perdre la vie. Nous parlons de surmortalité et de surmorbidité. Mais dans ces situations-là, comment est-ce que nous pouvons sauver ces vies? C'est un peu comme si vous allez à une bataille, il vous faut des armes de guerre pour aller à la bataille. Et donc pour nous, pour aller à la bataille de sauver la vie des femmes, des adolescents et des nouveau-nés, nous avons besoin de ces kits d'urgence. Ce sont des matériels médico-chirurgicaux qui permettent de sauver la vie des mamans, la vie des femmes, la vie des nouveau-nés. Voilà globalement ce que c'est qu'un kit d'urgence.
Alors, on peut dire que ce sont des kits de l'UNFPA seulement?
Non. En fait, c'est des kits interagences. Vous savez, le Fonds des Nations Unies pour la population, c'est l'agence spécialisée des Nations Unies pour les questions de santé sexuelle et reproductive et des droits reproductifs. C'est pour cela que toutes les agences, toutes les organisations qui interviennent dans ce domaine ont confié à UNFPA de gérer ces kits-là. Ce ne sont donc pas des kits de UNFPA, mais c'est des kits interagences pour toutes les organisations qui interviennent dans le domaine de la santé sexuelle reproductive en situation d'urgence.
Voilà. Alors, où sont utilisés ces kits et par qui?
Alors, vous savez, quand il y a une situation d'urgence, ce que nous voulons nous tous faire, c'est vraiment renforcer le système existant. Et le système existant, dans la plupart des pays, est hiérarchisé au niveau de la communauté, au niveau de l'aire de santé et au niveau d'un niveau de référence que nous appelons dans certains pays districts sanitaires, que nous appelons ici des zones sanitaires. Et donc, les kits aussi sont groupés par ces niveaux-là. Par exemple, au niveau de la communauté, c'est-à-dire, même s'il n'y a pas un agent de santé présent, quel type de kit on peut utiliser pour sauver une vie? Je vous donne l'exemple tout simplement d'une femme enceinte qui est proche d'accoucher.
Mais qui se retrouve dans une situation
sur la route,
voilà.
Sur un camp de déplacés. Qu'est-ce qu'on peut
dans des conditions précaires.
Oui. Nous avons par exemple ce que nous appelons des kits individuels d'accouchement. Qu'est-ce que cela contient? Cela contient le minimum qu'il faut pour que cette femme-là n'accouche pas à même le sol, pour que cette femme-là, son bébé ne meure. Et c'est quoi qu'il y a dedans? Il y a des gants hygiéniques, il y a ce que nous appelons en médecine des alèses, c'est-à-dire ce sur quoi le bébé peut naître, il y a des cordes bien stériles pour pouvoir attacher le cordon ombilical et couper le cordon ombilical pour que la maman ne saigne et pour que le bébé ne meure. Il y a dans cela un petit tube d'antibiotiques pour mettre sur le cordon ombilical pour qu'il n'y ait pas une infection. Bref, c'est un minimum qu'on remet à la femme visiblement enceinte pour que lorsqu'elle est surprise par le travail d'accouchement, qu'il y ait ce minimum pour qu'elle soit sauvée, pour que le bébé soit sauvé le temps qu'elle se rende sur une
formation. On remet à la femme individuellement ou bien on donne aux différentes zones de santé?
On remet à la femme. Mais bien entendu, s'il y a une zone de santé qui est là, nous remettons une dotation aussi pour qu'ils puissent gérer cela. Maintenant, je voudrais donner un deuxième exemple, parlant de la communauté. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont violées. Elles sont violées parce qu'elles se sont retrouvées dans une situation précaire dont nous venons de parler. Nous avons ce que nous appelons le kyste post-viol. Parce que dans les 72 heures d'un viol, il faut que la femme soit sauvée. Qu'est-ce qui peut faire perdre la vie à une femme? Une infection à VIH peut faire perdre la vie à une femme. Une infection avec des hépatites peut faire perdre la vie à une femme. Alors dans ce kit-là, il y a le minimum pour faire des tests. Il y a de la contraception d'urgence. Il y a de quoi faire une prise en charge médicale complète. Et pour pouvoir référer ensuite la femme. Nous avons parlé des infections sexuellement transmissibles qui arrivent aussi. Il y a des antibiotiques. Donc voilà aussi un exemple de kit qui peut être géré au niveau de la communauté.
Mais alors là, vous êtes déjà en train de parler des différentes catégories des kits qui existent. Vous pouvez aller un peu plus loin pour parler d'autres catégories de kits. J'imagine qu'il y en a beaucoup.
Ah oui, il y en a beaucoup. Nous avons jusqu'à 12 kits. Nous les avons numérotés jusqu'à 12. Et je parlais tantôt des kits au niveau de la communauté. Je voudrais, de façon pédagogique, aller au niveau des kits, au niveau des centres de santé, puis finir par les kits au niveau des hôpitaux de référence. Quand on parle au niveau des centres de santé, par exemple, nous avons un kit que nous appelons des kits d'accouchement médicalisés. C'est-à-dire que c'est des instruments médico-chirurgicaux qui sont remis à l'aire de santé, où des sages-femmes, des infirmières, des médecins, peuvent utiliser et ce sont des kits réutilisables. Nous avons par exemple la ventouse. Pour ceux qui ne savent pas, parfois la tête du bébé a des difficultés à sortir lors de l'accouchement. Et il y a différentes techniques que nous utilisons, mais la technique la plus sécurisée, c'est d'utiliser un instrument que nous appelons une ventouse qui permet d'aspirer, d'aider le bébé à sortir du canal vaginal sans pour autant créer des problèmes au niveau du crâne du bébé. Ça, c'est quand même...
Mais si le bébé ne présente pas la tête, mais il présente le derrière, par exemple, ou le côté, comment est-ce que la ventouse va servir aussi dans ces conditions-là?
C'est pas la ventouse que nous utilisons. C'est pour cela qu'il faut du personnel médical qui sait comment faire un accouchement. Et c'est pour ça que nous investissons dans la profession sage-femme. C'est ce corps de métier qui est le plus à même à sauver la femme, quelles que soient les présentations du bébé. Et, vous me permettez de dire, de plus en plus maintenant, nous formons un corps de sages-femmes humanitaires que nous déployons dans ces zones-là. Parce qu'habituellement, les sages-femmes sont dans les centres de santé et ne sont pas nécessairement sur les théâtres des opérations humanitaires. Mais je voudrais mentionner pour un autre exemple au niveau du centre de santé, c'est par exemple, lorsqu'il y a des accouchements, il y a des déchirures. Et ce que je suis médecin, donc je peux vous en dire un mot. Nous sommes amenés parfois à faire des sutures pour pouvoir éviter qu'il y ait des hémorragies. Les kits que nous avons pour les sutures permettent de faire et l'examen de l'appareil génital après l'accouchement et de réparer tout problème qu'il y a, toute déchirure qu'il y a à ce niveau. Et vous imaginez, c'est des appareils, des instruments qui peuvent être utilisés pendant des années. Mais je voudrais finir par la catégorie au niveau de référence. Parce que parfois, quand nous parlons des kits, on ne se rend pas compte. Nous avons un kit que nous appelons typiquement, peut-être vous avez entendu parler, un kit numéro 11. C'est un véritable hôpital ambulant. Le kit numéro 11. C'est tout ce qu'il faut pour faire toutes les interventions chirurgicales majeures dans un hôpital de référence.
Kit numéro 11.
Et nous remettons ça à des hôpitaux de référence. Il y a juste deux semaines, je venais d'en remettre à Fataki, à Ituri. Nous en avons déployé aussi dans beaucoup d'autres zones. Toutes ces zones-là qui ont été identifiées comme ayant besoin d'un renforcement de plateau technique. Mais je voudrais aussi mentionner un kit particulier qui est le kit numéro 12, qui est pour la transfusion sanguine. Vous savez, nous avons beaucoup de difficultés dans nos pays au sud du Sahara pour la couverture quand il s'agit de la transfusion sanguine. Mmh. D'abord, nous n'avons pas beaucoup de banques de sang, nous n'avons pas beaucoup de donneurs, et donc la plupart du temps dans les villages, ce que nous faisons en tant que médecin, c'est d'appeler un membre de la famille pour essayer de donner le sang,
oui.
Et nous testons rapidement pour voir. Ce kit numéro 12 permet de faire tous les tests qu'il faut pour pouvoir faire une transfusion de sécurité. Ça commence d'abord par le groupage sanguin, pour s'assurer qu'il y a compatibilité. Mais nous testons aussi pour savoir que le sang que nous voulons remettre pour sauver la vie n'a pas de VIH, n'a pas d'hépatite, n'a pas d'autres infections qui, au lieu de sauver la vie, va plutôt créer la perte de la vie.
Problèmes, oui.
Donc, ces kits-là, nous les disposons aussi au niveau des hôpitaux, parce que c'est à ces niveaux-là qu'on peut faire une transfusion sanguine. Donc, voilà un
et peu. Ces kits-là sont contenus dans des gros sacs, j'imagine, ou c'est dans des cartons, des petits sacs qu'on remet au centre de santé, et puis il y a des kits également qu'on remet aux femmes.
C'est différent. Par exemple, le kit 12 dont je viens de parler, je peux me balader avec ce kit-là. C'est pas aussi grand que ça.
Mmh.
Ce qui fait que parfois, quand nous voyageons, même pour une mission, nous amenons avec ça. Par contre, le kit dont je viens de parler comme un hôpital ambulant, vous vous imaginez,
ah, ça.
C'est un carton et c'est, ça remplit toute la salle que nous sommes ici en train de faire l'émission.
Oui.
Par contre, il y a d'autres kits, kits individuels d'accouchement, qui est comme une sacoche. Que nous remettons à la femme visiblement enceinte, même les kits post-viol, c'est pas un grand carton, mais ça peut couvrir une population de 10 000 habitants pour 3 mois. En fait, c'est ça ce que je voudrais peut-être ajouter en termes de couverture population et en termes de durée d'utilisation de ces kits-là. Tout ce que nous remettons au niveau de la communauté, en général, c'est pour couvrir une population de 10 000 personnes pour 3 mois. Ce que nous remettons au niveau des centres de santé, c'est déjà une population de 30 000 personnes pendant 3 mois aussi. Mais ce que nous remettons au niveau d'un hôpital, c'est minimum 150 000 habitants, 200 000 habitants, et c'est des instruments réutilisables pendant une année, deux années, trois années, parce que, vous imaginez, même ce que le chirurgien doit porter, les blouses, tout y est. Dans ces kits au niveau des hôpitaux de référence.
Mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui de l'importance des kits de santé de la reproduction en période des crises humanitaires. Docteur Senen Unton, représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, est notre invité. Des questions et préoccupations, composez le 081 890 63 94.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05. Puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Bien, vous êtes sur Okapi, la fréquence de la paix. Nous parlons aujourd'hui des kits interagences des santé reproductives en situation d'urgence. Cédric Mouema nous appelle de Kanyama KCC. Gaston est à Kinshasa. Des questions et préoccupations, composez le 081 890 63 94. Cédric Mouema, bonjour. Bonjour Cédric. Il n'est plus là, apparemment. On va donner la parole à Gaston de Kinshasa. Bonjour Gaston.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, vous parlez de... Moi, si j'ai bien compris les interventions antérieures, il y a une situation d'urgence en temps que vous qualifiez de crise humanitaire. À mon avis, la première question, c'est celle-là que je devrais poser à l'invité. Est-ce qu'il s'agit des crises humanitaires ou de l'ingérence humanitaire? Parce que je sais que l'ingérence humanitaire consiste à sauver une population en danger, une population par exemple qui est en quelque sorte malmenée par son gouvernement, peut-être par exemple, ou par un autre gouvernement, mais un autre État pouvait intervenir dans les affaires intérieures pour sauver cette population. Et là, on parle de l'ingérence humanitaire. Mais il arrive aussi qu'on applique les droits humanitaires lors de conflits armés internes et internationaux. Mais dans le cas de la RDC, je pense qu'il s'agit des régions bien localisées où on parle de conflits armés, qu'à mon avis, qui est normalement du droit interne, parce que ce n'est pas d'une agression. Et que pendant les périodes où il y a des atrocités, où il y a des...
D'accord, donc vous voulez savoir si l'UNFPA et ses partenaires le font, ce qu'ils font là, il s'agit d'une intervention humanitaire ou d'une ingérence, voilà, humanitaire.
Oui.
Merci d'avoir appelé. On va donner la parole à Cédric. Vous voulez encore ajouter autre chose?
J'allais dire une chose très importante.
Laquelle?
Vous savez, actuellement, les problèmes de naissance en difficulté se trouve partout, et c'est urgent aussi c'est ce cas-là, ou même dans des régions où il n'y a pas de conflits. Je peux vous donner un exemple d'un hôpital qui connaît beaucoup de ces cas-là, mais qui n'est pas équipé, que ces gens-là pouvaient aussi peut-être équiper ces hôpitaux-là, former ces agents-là, de telle sorte que...
Où se trouve l'hôpital en question, Gaston, rapidement?
L'hôpital se trouve dans la province de Kwilu, à l'hôpital de Sala, où le docteur Héritier Ngandou est là.
D'accord. Merci, Gaston, d'avoir appelé. On va donner la parole à Cédric Mouema, qui est à Kanyamakasese. Bonjour, Cédric. Cédric, vous êtes là? Il n'est pas là. Kachai de Kanyoka, bonjour.
Bonjour, monsieur, je dis Daniel Kachama et bonjour à monsieur les docteurs.
Quelle est la question que vous adressez à docteur Sanen?
Oui, merci beaucoup, monsieur Jody. J'ai suivi avec intérêt, monsieur les docteurs, par rapport au cas sous examen. Mais je voulais demander au docteur ceci. Monsieur Jody, ici, à Kananga, à partir de Kanyoka où je vous appelle, nous avons connu des cas pareils de certaines femmes qui n'ont rien sur elles pour s'accoucher, monsieur Jody. Les femmes qui étaient frappées par les hostilités dues au conflit Kamouina-Sapou. Et puis, nous les avons hébergées ici. Notre structure a pris quelques-unes en charge, mais nous avons connu une difficulté parce qu'il y en a qui n'ont ni cache-couche, ni savon, ni bassin, ni les linges de l'enfant. Donc, elles sont abandonnées à leur triste sort comme ça. Et c'est le centre de santé Kanyoka qui prend ces femmes-là en charge. Et parfois, les autres viennent, et quand elles viennent comme ça, vraiment, c'est vous-même là, vous pouvez pleurer. Alors, je voulais demander un peu à monsieur l'invité. Est-ce que cette aide-là est limitativement limitée aux provinces de l'Est, parce qu'il a parlé de l'Ituri, alors que le Kasaï central fait partie des provinces qui ont connu des atrocités, des conflits armés, si on peut étendre l'aide pour que ici en province, les femmes qui y sont, et plus précisément dans ce village où j'ai vu, puissent aussi bénéficier de l'aide pourvu qu'elles puissent s'accoucher dans les conditions, même si elles ne sont pas normales, mais dans quelques conditions.
Merci, merci Kachai.
Deuxièmement, monsieur Jody, c'est le cas aussi de certaines filles, s'il vous plaît. Nous avons connu le cas de certaines filles ici, monsieur Jody, qui ont développé le cas de infections urinaires. Beaucoup d'infections. Nous avons constaté qu'avec la structure Femme Kanyoka Réveille-toi, on a interrogé ces filles-là. On a constaté que lors de leur période mensuelle, les filles n'utilisent pas les conforts. Elles prennent le parti de pagne. Alors, ces pagnes-là, même si c'est bien nettoyé ou mal nettoyé, je ne sais pas, Elles utilisent ça, monsieur Jody.
Et voilà, elles n'ont pas, vous voulez dire qu'elles n'ont pas des moyens pour acheter les bandes hygiéniques, alors elles utilisent des morceaux d'épagne pendant leur menstruation. Merci. On a retenu la question. Joël Zakissa, vous êtes à Maggie, bonjour. Okay. Joël Zakissa, bonjour. Quelle est la question rapidement?
Ok, j'ai un petit témoignage et quatre questions.
Oui, rapidement.
Ok, ici à Maggi, en tout cas, avec les cas actuels des problèmes, les cas de réfugiés, que Maggi vient de connaître, donc il y a pas mal de mamans qui sont vraiment, qui donnent naissance dans des conditions inhumaines. Alors, c'était juste ça d'abord, les témoignages. Maintenant, j'ai quatre questions. La première, que faire pour bénéficier ces kits? Est-ce qu'il faudra que les mamans soient recrutées, enrôlées ou toute catégorie de mamans pourra bénéficier de ces kits? La deuxième, est-ce que ces kits-là sont largués partout en heure de toutes les provinces ou non? La troisième, maintenant, en quand des monnayages de ces kits? Parce que de par les médecins, il peut y avoir des monnayages. Or, ce sont des choses qui sont données, en tout cas, d'une manière bénévole. Alors, en cas de monnayage, où peut-on courir? Et la dernière des questions, quel conseil que les messieurs invités peuvent donner à nos mamans? Parce que des fois aussi, les mamans, on leur donne des choses pareilles et elles commencent à utiliser cela dans des autres, puis, en tout cas, il faut vous parler qu'il y ait un petit conseil pour les mamans qui seront bénéficiaires. Envie de pouvoir bien utiliser ce kit pour une bonne fin. Merci bien.
Merci Joël Zakissa de Mag. Freddy Waïta, vous êtes à Beni, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody, bonjour à l'invité. Je voulais juste intervenir, mais heureusement si mon professeur vient de parler, si moi je voulais...
Donc vous n'avez plus rien à dire.
Je voulais sur le...
D'accord.
L'autre chose à dire aussi, je voulais ajouter, parce que je voulais parler juste pour le suivi, comme l'autre vient de dire, parce que quels sont les suivis, l'OMG réserve, puisque par rapport au détournement de ces kits-là, par rapport à ces malades ou bien à ces femmes vulnérables-là, les kits qu'on distribue au centre de santé ou aux zones de santé, puis malheureusement, peut-être ça n'arrive pas aussi aux bénéficiaires.
D'accord.
Quelles sont les sanctions à réserver? Et puis, je veux aussi savoir si l'ONG a aussi planifié plus loin pour ces femmes-là qui mettent au monde peut-être des quadruples et plusieurs femmes, enfants à l'hôpital. Est-ce qu'elles arrivent aussi à prendre ces femmes en charge
à
leur fait de maternité?
D'accord. Merci, Freddy. Depuis Béni, docteur Senen, vous avez la parole.
Oui, merci. Je voudrais d'abord remercier tous les intervenants pour l'intérêt par rapport à l'émission. Monsieur Gaston voulait savoir si quelle est la différence, si on faisait une différence entre ingérence et entre crise. Ce que je voudrais dire ici, c'est que au niveau de la communauté humanitaire, quelle que soit la cause du risque et de la vulnérabilité, nous devons assister les femmes. Donc ne faisons pas de différence. Que ça soit à travers un conflit armé, que ça soit à travers les conflits communautaires, quelle que soit la crise, nous devons être à côté de nos mamans. Deuxièmement, il a posé un problème qui dépasse un peu le cadre humanitaire, qui est en fait un problème de couverture sanitaire universelle. Parce que, comme il le dit effectivement, quel que soit l'endroit, nous avons des populations vulnérables qui n'ont pratiquement rien, qui ne peuvent pas payer les frais dans les centres de santé. Cela dépasse un peu l'action des humanitaires. Cela revient au niveau du gouvernement pour assurer la couverture sanitaire universelle. Ce que Cédric a dit, par exemple, si est-ce que c'est seulement à l'Est, c'est pas seulement à l'Est. Quels que soient les instruments de l'action humanitaire ici en RDC, il y a toute une série de critères pour choisir quelles sont les zones où nous devons intervenir. Les critères incluent, par exemple, les crises, mais ça inclut aussi les financements qui existent, parce que la réalité, c'est que toutes les crises humanitaires en RDC sont financées à moins de 50%. Et donc, du coup, nous ne pouvons pas arriver à couvrir tous les besoins. Et donc, juste pour illustrer, il y a par exemple ce que nous appelons dans notre jargon l'instrument qui concerne le fonds d'urgence pour les crises sous-financées. Cela concerne 6 provinces. il y a l'Ituri dont j'avais mentionné, il y a le Tanganyika, le Kasaï central, le Nord Kivu, le Sud Kivu. Mais ça, ce n'est qu'un instrument. Sinon, nous avons 4 hubs humanitaires au niveau du pays et tous ces endroits-là sont couverts. Mais j'en conviens.
Le Kasaï aussi est couvert. Pour répondre
le Kasaï est couvert.
Qui avait l'impression que vos actions sont limitées seulement à l'est.
Ah non, pas du tout. C'est couvert et même tous les 3 Kasaï d'ailleurs, hein, que ce soit le Kasaï central ou le Kasaï oriental. Alors, Joël a posé le problème de savoir est-ce qu'on fait des enrôlements un peu comme dans d'autres secteurs humanitaires. Non, on ne fait pas des enrôlements. C'est-à-dire nous nous appuyons toujours sur le système de santé. Donc au niveau du centre de santé par exemple, les mamans qui viennent en consultation sont identifiées et j'avais dit tantôt que nous remettons par exemple les kits individuels aux femmes visiblement enceintes. Ça veut dire que c'est déjà 7 mois à peu près quand on remet, parce que c'est pour pallier à l'absence d'un agent qualifié, mais la femme est surprise par un travail d'accouchement. Donc, ça fait déjà les 8 mois.
Oui.
Y a des situations et qu'on ne peut pas parfois contrôler, que Joël est en train de... Monnayage des kits.
Ça, ça peut toujours arriver, ce genre
de
situation.
Bon, je n'en ai pas encore observé moi-même, parce que ce que nous remettons aux mamans elles-mêmes, à moins qu'elles-mêmes décident de monnayer ça, ça, c'est un autre problème. Mais sinon, le reste... nous le mettons au centre de santé. Maintenant, s'il y a des problèmes au niveau du centre de santé, je ne crois pas que le personnel de santé va faire cela. Les conseils, nous les donnons souvent, chaque fois que nous remettons ces... nous ne nous contentons pas juste de remettre les kits. Il y a tout un manuel et nous formons les agents de santé là où nous remettons ces kits pour une bonne utilisation. Freddy a aussi allé dans le même sens en parlant de suivi et pratiquement s'il y a eu des fraudes. Les quadruples, c'est un peu c'est comme tout accouchement. Nous, au niveau, en tant qu'agent de santé, quel que soit le nombre de bébés, nous sommes formés pour pouvoir assister les mamans. Ce qui manque, c'est avoir les personnels qualifiés pour servir toutes les mamans. C'est pour ça que nous insistons au niveau du Fonds des Nations Unies pour la population pour une formation massive et un déploiement des sages-femmes au niveau de tous les centres de santé. Pour...
par exemple, au niveau des camps de déplacés, comment ça se fait?
Au niveau des camps de déplacés, il y a différentes situations. Si c'est des réfugiés, c'est le HCR qui nous coordonne, nous tous. Et donc, à travers le HCR, nous intervenons pour pouvoir avoir un poste de santé. Ça peut être directement, ça peut être à travers une ONG la plupart du temps, national ou international.
Un poste de santé dans ces camps-là?
Oui, oui, absolument, pour pouvoir offrir. Mais il y a aussi des différences. Par exemple, je vais donner l'exemple encore de l'Ituri d'où je viens, parce qu'il y a un camp qui est juste derrière l'hôpital général de référence. Donc, qui est à moins de 100 mètres. Donc, nous ne mettons...
de l'hôpital général de référence.
De référence. Donc, vous voyez, nous ne mettons plus un poste de santé pour les réfugiés, puisqu'ils peuvent juste marcher et aller au centre de santé. Donc, nous regardons chaque fois la distance qu'il faut parcourir pour les réfugiés pour pouvoir intervenir. Lorsqu'il s'agit d'autres communautés, je donne par exemple, dans le Kasaï actuellement, nous avons un afflux massif de nos frères et sœurs qui reviennent de l'Angola et qui sont même internés pratiquement sans... le gouvernement a mis une structure à place pour
les accueillir.
Pour les accueillir. Mais il y a encore des difficultés
besoins,
majeures.
Donc, ça se trouve dans des familles d'accueil, dans des églises.
Exactement. Exactement. Là, nous sommes en train... pendant que je vous parle là, nous sommes en train de déployer des tentes médicalisées. Mais encore une fois, le besoin dépasse nos moyens. Et c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai fait un appel, son Alain, à la communauté internationale, mais aussi aux donateurs, pour qu'on nous octroie un peu plus de ressources pour apporter un peu plus d'aide à nos populations.
Bien, il y a Kachai qui a parlé de ces jeunes filles aussi, parce que ces kits concernent aussi les jeunes filles qui ont des menstruations, mais n'ont pas assez de moyens pour s'acheter les serviettes hygiéniques. Alors, elles trouvent des morceaux de tissu qu'elles utilisent et après, ça cause des infections urinaires. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ces sujets?
Tout à fait. Là, nous parlons souvent des kits de dignité. C'est pas la même catégorie que ceux dont nous discutons. Et dans ces kits de dignité, il y a souvent des couches hygiéniques. Il y a aussi le minimum hein, pour les brosses à dents, les tapettes, parce que souvent, c'est des populations qui ont tout fui, tout a
qui
été
qui ont détruit, tout abandonné.
Tout abandonné, voilà. Et donc se retrouvent sans rien. Dans ce cas, nous offrons quelques kits de dignité. Mais de plus en plus, ce que nous essayons de faire, c'est que dans la plupart des pays où il y a des crises, ces matériaux-là existent. Et ça contribue même à développer l'économie locale que de s'en procurer localement. Et donc voilà un peu ce que nous essayons de faire. Mais encore une fois, nous n'arrivons pas à couvrir tous les besoins.
Bien, merci à tous les internautes qui nous ont écrit sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Je m'en vais lire rapidement quelques réactions. Ingénieur Junior Chitenga nous a écrit de la province du Kasaï Oriental, précisément en Boujima. Il dit, je suis très content des actions de l'UNFPA, de son secours qui peut aider quelques personnes touchées par les catastrophes. La question que je veux poser est de savoir, l'UNFPA doit donner ses kits à la population touchée dans les temps passés. Voilà, il veut dire les gens qui ont été touchés dans les temps passés. Est-ce que l'UNFPA peut toujours intervenir avec ses kits?
Comme je disais, chaque fois, pour les instruments de financement, nous définissons toujours les populations qui doivent bénéficier. Malheureusement, toutes les populations ne sont pas ciblées. Si je prends l'instrument du fonds humanitaire, il y a des endroits où nous allons. Si je prends l'instrument du CERF sous-financé, il y a des endroits où nous allons. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas la durée de la crise, mais c'est l'acuité de la crise. Voilà ce qu'il faut retenir.
Bien, Jurès Emaka nous a écrit de Bandundu. Il dit, selon son entendement, l'équipe d'urgence doit être un ensemble des biens matériels pouvant permettre à des personnes en situation d'urgence de prévenir et de guérir certaines maladies telles que la diarrhée, le choléra, etc. Parmi ces biens, on peut citer entre autres les récipients pour le puisage et la conservation de l'eau, des désinfectants, des tentes, les médicaments, les denrées alimentaires, etc. Il est bien que les organismes internationaux assistent les personnes en situation d'urgence, mais il convient de signaler que ces genres d'assistance ne couvrent pas les besoins réels et totaux de ces populations. Il faudra que le gouvernement assume pleinement ses responsabilités pour éviter ces situations qui donnent à certains organismes les fonds de commerce. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Jurès de Emaka, de Bandundu-Ville?
C'est une très bonne question parce que ça me permet de clarifier quelque chose. Vous savez, dans l'assistance humanitaire, il y a différentes actions. Il y a ceux qui s'occupent des abris, il y a ceux qui s'occupent de la vaccination, il y a ceux qui s'occupent de l'éducation, il y a ceux qui s'occupent... Bref, toute personne qui se retrouve dans une situation humanitaire a différents besoins. Ce dont nous parlons ce matin, c'est la santé sexuelle et reproductive. C'est-à-dire, une maman est enceinte, va accoucher, il ne faut pas qu'elle perde la vie. C'est-à-dire, une femme a été violée, il ne faut pas qu'elle perde la vie. C'est-à-dire qu'une femme est en train de saigner, il ne faut pas qu'elle perde la vie. Voilà des choses dont nous sommes en train de parler ce matin. Et donc, comment assister? Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement. C'est d'ailleurs pour moi le lieu de saluer que dans le nouveau gouvernement, nous avons un ministère des Affaires humanitaires. Et je suis sûr qu'il y aura une très grande coordination, non seulement avec ce ministère, mais avec le Fonds social. Parce que les humanitaires seuls ne peuvent pas régler les problèmes, et le gouvernement seul ne peut pas faire face à tout ce problème-là. Et donc, ce partenariat est vraiment très important. Et parler de responsabilité de nos États, vous savez, il y a une raison pour laquelle nous parlons de pays en développement. Si nous avions déjà la capacité de régler tous ces problèmes, je suis sûr que nous serons en train de parler de pays développés ou pays émergents. Voilà. Donc, voilà là où nous nous situons actuellement.
Bien, nous parlons aujourd'hui des kits de santé de la reproduction en cas de crise humanitaire. Docteur Senen Unton, représentant du Fonds des Nations Unies pour la population en République démocratique du Congo, est notre invité. Nous avons deux auditeurs en ligne. Ambroise nous appelle de Mbujimayi, Malonga est à Bandundu-Ville. Ambroise, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Je suis content pour m'avoir accordé la parole. Je vous appelle depuis sur la ville de Mbujimayi.
Quelle est votre question, Ambroise?
Oui, en rapport avec notre invité, le docteur qui est sur le plateau, il a parlé sur les kits de santé pour la reproduction de la femme en cas de crise. Mais il a épinglé des éléments comme kit numéro 11, kit numéro 12, mais c'est une situation vraiment déplorable concernant sur notre province parce que nous avons constaté qu'il y a des femmes qui accouchent dans des conditions là critiquables. Et lui, il a insisté sur kit et la ventouse en disant que ventouse là, bon, c'est une aide là qui permet à la femme de faire sortir son enfant, donc l'enfant sort dans le vagin à travers la tête. Mais nous constatons que la femme arrive à accoucher dans des conditions là critiquables jusqu'à tel point qu'elle subit les cas de césarienne. Et quand vous constatez ces cas, c'est surtout pour les hôpitaux de référence. Mais moi, je n'ai jamais vu des kits dont il a parlé. Il a parlé des kits numéro 11, le kit numéro 12, il a parlé des ventouses. Mais quel est le dispositif que l'État a mis en place pour pallier quand même à ce genre de situations récurrentes, aberrantes, qui mettent mal à l'aise les femmes congolaises, même sur le milieu urbain, vraiment c'est...
Oui, Ambroise, docteur Chanel n'est pas mieux placé pour répondre à la place du gouvernement. Donc peut-être là, on trouvera quelqu'un du côté gouvernemental qui répondra à votre question. Merci d'avoir appelé, on va donner la parole à Malunga qui nous appelle des bandes nouvelles. Malunga, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à notre invité, à tous ceux qui nous suivent.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, mais je voudrais m'excuser d'abord s'il y a un bruit, puisque je suis dans le bac, je suis dans les traversées de Quill.
Ah oui, on entend le bruit, hein. Vous êtes sûrement en train de traverser. Allez-y.
Oui, oui, c'est le bac. Bon, je dis, moi, j'ai bien suivi l'invité. Il a beaucoup commenté, expliqué sur le site de santé pour la reproduction. Mais moi, je me demande, il n'y a pas la reproduction sans couple, hein, l'homme et la femme. Donc, ce kit s'intéresse seulement par la femme. Mais ici, chez nous, nous voyons des femmes qui mettent au monde difficilement à elles-mêmes. Elles sont abandonnées, même au niveau de l'hôpital général. Si vous trouvez des femmes là-bas, il y a des femmes qui passent même 6 mois, une année, hein, sans aide là-bas, hein, des frais de maternité et tout ça. Est-ce que c'est qui se limite seulement à l'accouchement? Est-ce que ça ne peut pas aider aussi la femme pour d'autres frais comme ça? Puisque la femme subit, en tout cas, il y a des femmes qui se sont mariées à des hommes qui n'ont rien. Mais, putain, pour avoir un peuple, être qui que là-bas, ce frais ne peut aussi, elle ne peut pas aussi intervenir à cet aide-là.
D'accord, merci. Merci Malunga et bonne traversée. On va donner la... Oui.
Oui, je vais demander ceci. Est-ce que ce personnel qui gère ce kit-là, ce sont les personnels médicaux ou bien ce sont des personnels nouvellement engagés seulement pour ce service-là?
D'accord, merci. Serge King, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour aussi à l'invité du jour.
Nous parlons des kits de santé de la reproduction en situation de crise humanitaire. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, par rapport à ça, c'est catastrophique dans notre pays. Bon, je ne peux pas généraliser, mais dans des contrôles, moi j'ai toujours vécu, je suis toujours allé pour aller faire mes histoires privées. Mais monsieur le journaliste, comprenez. J'ai un cas nord-sud-dans auquel j'avais vécu à mes propres yeux. J'étais en voyage à l'intérieur de la province, un jour comme ça, au niveau du centre de santé, très reculé, en matériel, en produits, en médicaments, tout et consort. C'était un jour comme ça, une maman qui voulait accoucher. Lorsqu'elle a accouché, je vous assure, l'état de l'endroit où elle a accouché, je ne sais pas si c'est, je peux appeler ça, c'est du lit, ou soit... je ne sais pas, les médecins ont leur nom, comment est-ce qu'ils ont toujours appris. Maintenant, lorsqu'elle a accouché là, lorsqu'elle est tentée d'accoucher, l'enfant, lorsqu'elle est tentée de pousser l'enfant, l'enfant était directement tombé par terre et elle était morte sur place. Alors, je me demande, l'enfant incombre à qui, effectivement? Mais comment est-ce que c'est des partenaires ou vous collaborez pas avec des hôpitaux et d'autres endroits très réticents. Vous vous occupez seulement avec des centres urbains. Ma dernière préoccupation, c'est de s'adresser. Maintenant, il y a ouverture des rentrées scolaires. Les enfants, vous savez, pour lutter contre les maladies d'origine hydrique, tout est consommé. Est-ce que vous ne pouvez pas disponibiliser d'abord des seaux, soit de lavage des mains, lorsque l'enfant quitte le WC, il puisse d'abord avoir un peu l'esprit à l'école, lorsqu'il quitte le WC, de pouvoir laver ses mains. Et lorsqu'il quitte ici, à la maison, il va pouvoir continuer avec ces mêmes comportements-là. Voilà un peu ma préoccupation par rapport au sujet de la journée.
Bien, merci. Docteur Sénène, vous avez la parole.
Oui, je voudrais d'abord dire que on ne parle pas que de l'accouchement. Vous savez, il y a un kit qui est dédié uniquement pour la contraception. On passe le kit numéro 4.
Numéro 4. Oui.
Et ça fait de la contraception. Toutes les
contraceptifs oraux et injectables.
À la fois pour l'homme et pour la femme. C'est-à-dire pour l'homme, même si vous voulez même faire de la vasectomie, vous pourrez aller à un hôpital de référence. Il y a les instruments pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est la première des choses. Mais je voudrais insister que c'est surtout pour sauver la vie. Ce n'est pas pour régler des problèmes systémiques d'un système de santé ou...
défaillant.
Voilà. Donc, là où la maman a des risques de mourir, on essaye d'éviter que la maman puisse mourir. Mmh. Parce que, par exemple, si la maman est séquestrée et les frais ne sont pas payés, ce n'est pas l'équipe d'urgence qui vont gérer ça. C'est un problème de couverture sanitaire universelle. Mmh. Je voudrais rassurer Monsieur Serge que nous ne sommes pas que dans les zones urbaines. Hein? Je viens moi-même de l'Oda. L'Oda n'est pas une zone urbaine, monsieur le journaliste. Mmh. On a dû prendre un hélicoptère pour pouvoir aller descendre là-bas. Une zone enclavée. Les équipes viennent d'aller à Litoula. À Litoula, un hélicoptère n'est jamais descendu là-bas depuis plus de 15 ans. On a failli faire des vols de reconnaissance. Et je profite d'ailleurs pour saluer toute la communauté qui s'est mobilisée pour débroussailler, faire une piste de fortune pour qu'on puisse déposer les matériels pour sauver les mamans. Donc, ce n'est pas du tout au niveau des zones urbaines. Mais chaque fois, parce que la question a été posée par M. Malouga, à qui nous remettons ça ? Et qu'on ne voit pas, par exemple, ce que Ambroise a dit. Non, vous n'allez pas voir les cartons. Les cartons, quand nous les déposons, peut-être le jour où nous les déposons. Sinon, l'hôpital ou le centre de santé va mettre dans leur dépôt et ils vont commencer à enlever les produits pour mettre dans les salles d'opération, les salles de consultation.
On
ne
va pas les exposer pour que les gens viennent les regarder.
Exactement. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. Sinon, les autres besoins dont les auditeurs parlent concernant l'eau, concernant l'assainissement, il y a mes collègues de UNICEF qui sont mieux placés pour en parler, qui s'occupent de ce secteur. Et donc, quand vous allez les inviter, ils pourront vous entretenir sur ces sujets.
Il y a même un kit numéro 5 qui concerne les traitements des IST.
Absolument. Et ça, justement, ça permet, parce qu'il y avait un auditeur qui avait posé la question, qui avait dit, par exemple, que les femmes développaient des infections sexuellement transmissibles parce qu'elles n'ont pas les couches. Et donc, il y a ça qui contient des antibiotiques, les antiseptiques, pour pouvoir prendre en charge de façon même ambulatoire, parce qu'on a des protocoles homologués par le ministère de la Santé pour la prise en charge syndromique des maladies sexuellement transmissibles. Donc, nous suivons les protocoles du gouvernement et nous mettons à la disposition ces médicaments.
Voilà, Guillaume Elenga nous a écrit depuis Kisangani. Il dit ce kit d'urgence est considéré comme l'ensemble des équipements des soins qui permettent d'assurer les premiers soins qu'on donne à quelqu'un avant d'arriver dans la structure proprement dite. Nous savons, je voudrais savoir, voilà, qu'est-ce qu'il dit, savoir notre invité, quel type de catastrophes, voilà, quels sont les types de catastrophes qui sont prises en compte par rapport à ces distributions des kits d'urgence. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Guillaume Elenga?
Ce que je pouvais dire, c'est pas les premiers soins, c'est des soins qui sauvent la vie. C'est très important d'insister. C'est pas comme on fait des premiers soins puis vous allez. C'est-à-dire là où vous êtes, qu'est-ce qui fera que vous n'allez pas perdre la vie? C'est la philosophie. Et donc, quelles sont les situations qui font qu'une femme ou une adolescente ou un nouveau-né peut se retrouver? Les réfugiés, les déplacés, les conflits communautaires comme on en a connu. Il y a un auditeur qui a parlé du Kassai Kamna Sapu, des écoles, des églises, des maisons sont détruites et donc les gens se retrouvent complètement dans la nature, même des épidémies majeures. Par exemple, dans le cas de Ebola. Vous savez, par exemple, dans le cas de Ebola, que la majorité des personnes atteintes, ce sont les femmes et les enfants. Vous savez, même au niveau du personnel de santé, nous avons perdu à peu près 5% des décès sont dans le personnel de santé. La majorité, ce sont les personnels de santé qui travaillent autour de l'accouchement et dans les maternités. Mmh. Et donc, dans ce cas, quand vous vous retrouvez dans ces circonstances, vous avez besoin de ces kits-là. Et justement, notre contribution a été d'amener des tonnes de kits SR au début de l'épidémie et nous continuons de mettre à disposition à Beni, à Butembo, etc.
Alors, docteur Sénan, il est important de préciser comment s'est procuré les kits de santé de la reproduction.
Je disais tantôt, j'insistais au début de l'émission que c'est des kits interagences. Ça n'appartient pas qu'à UNFPA. UNFPA se charge de gérer. Parce que toutes les organisations qui interviennent dans sauver la vie des mamans et des nouveau-nés en situation de crise se sont rassemblées pour définir les contenus. Et ces contenus ont été homologués par l'OMS. Mais nous avons une structure qui est à Copenhague, qui gère la disposition de ces kits-là, la constitution et la disposition. Et donc, n'importe quelle organisation, en fait, peut commander ces kits avec n'importe quelle ressource. Même l'État peut décider de commander ces kits directement et ces kits seront acheminés. Alors nous, comme nous nous occupons dans le système de la santé sexuelle et reproductive, alors les financements pour ce volet de l'assistance humanitaire nous sont envoyés et nous commandons ces kits et nous les disponibilisons à tous les acteurs.
Bien, alors quels sont les objectifs de santé, santé reproductive lors des urgences?
Il faut retenir qu'il y a quatre objectifs majeurs. Il y a deux autres dont je vais parler à la fin. Mais les quatre objectifs majeurs, premièrement, une femme est violée. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons prévenir que les femmes soient violées et nous voulons qu'elles aient l'assistance médicale dans les 72 heures pour ne pas mourir. Deuxièmement, on a parlé des infections sexuellement transmissibles tout à l'heure. Nous voulons réduire et la transmission et la mortalité liées aux infections sexuellement transmissibles. Troisièmement, nous voulons éviter la surmortalité maternelle et néonatale. Je parle de surmortalité parce que dans n'importe quel pays, lorsqu'il y a une crise, le risque de décès augmente. Et quatrièmement, nous voulons prévenir les grossesses non désirées. Parce que ce n'est pas parce que nous nous retrouvons en situation de crise qu'il n'y a plus de relations sexuelles, qu'il n'y a plus de grossesses, etc. Et donc, les personnes qui aimeraient planifier les naissances, qui aimeraient espacer les naissances, nous nous assurons qu'elles ont les moyens de pouvoir faire ces choix-là. Les deux autres objectifs, je ne voudrais pas les appeler à ce soir, mais c'est très important pour le système de santé. C'est par exemple pouvoir renforcer le système de santé existant. C'est-à-dire, il ne faut pas que nous venions et que nous disparaissions comme nous venons éteindre un incendie seulement. Il faudrait se préparer à la prochaine crise pour pouvoir mieux gérer. Et donc, il y a un objectif qui est que lorsque vous intervenez dans une zone, vous devez appuyer le système de santé à travers des formations, à travers même des réflexions parfois, des maternités. Nous en faisons dans un certain nombre. Mes collègues
étaient passés. Bien que les besoins soient énormes.
Ah oui, bien que les besoins, mais nous en faisons quand même. Il y a beaucoup d'exemples. Et ensuite, il y a toujours ce que nous appelons la coordination. Parce que sans la coordination des acteurs, le peu de moyens que vous avez peut se disperser. Donc voilà un peu les objectifs quand il s'agit de la santé sexuelle reproductive en situation humanitaire.
Alors vous venez fraîchement de Fataki, de l'Est. Parlez-nous, qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas comme situation et comment est-ce que la réponse qui a été apportée par rapport à cette situation-là?
Je voudrais d'abord saluer les autorités au niveau de la province, parce que le gouverneur m'a fait l'amabilité de me recevoir quand j'étais arrivé, et il a bien précisé vraiment ses préoccupations sur comment nous pouvons rendre vraiment plus efficiente l'action humanitaire en collaboration avec le gouvernement. J'étais allé là-bas pour plusieurs objectifs. J'étais allé d'abord pour lancer une campagne de réparation de fistules obstétricales, qui s'est très bien passé, qui se déroule, qui est toujours en cours à Bounia. J'étais allé aussi pour célébrer la journée internationale humanitaire, et je n'avais pas voulu rester à Kinshasa ici pour faire ça, et donc je suis allé me déplacer, me retrouver sur le camp des déplacés, sur un des camps des déplacés, parce qu'il y en a beaucoup, pour rester avec les mamans et leur apporter un peu d'assistance. Et comme vous parliez de Fataki, Fataki en fait partie des zones, il y a 18 zones de santé qui ont été identifiées sur un financement spécial, le financement central de l'aide humanitaire pour les crises sous-financées. Et je suis donc allé à Fataki pour apporter le paquet d'assistance qui était prévu à apporter à ce district, à cette zone de santé. C'est dans ce cadre que nous avons amené 2 tonnes de matériel médico-chirurgical d'une valeur d'environ 300 000 dollars américains et qui comprend les kits 11, les kits 12 dont nous avons parlé, et qui va permettre justement à l'hôpital de zone de pouvoir faire toutes les interventions, les césariennes et toutes les interventions obstétricales et d'autres interventions pendant plus d'une année.
Et quels sont les problèmes réels que connaît le Fataki?
En fait, c'est pas limité à Fataki. Il faut dire que en Ituri, nous avons une crise récurrente depuis des années. Nous avons 2 communautés, les Hema et les Lindou, qui se battent depuis des années. Nous avons aussi des rebelles qui sont dans cette zone. Donc, de temps en temps, les populations sont agressées et donc se retrouvent complètement démunis.
Et qu'il y a, il y a des donc, urgences humanitaires.
Il y a beaucoup, beaucoup. Nous avons dénombré plus de 50 camps de déplacés. Et particulièrement là où j'étais, par exemple, à Loda, il y avait aussi un camp de déplacés où les personnes déplacées vraiment étaient démunies de pratiquement tout.
Bien, nous disons merci à Dr. Senen Unton. Je rappelle que vous êtes représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population en République démocratique du Congo. Merci d'avoir participé à cette émission pour nous parler des kits de santé de la reproduction, et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.